Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenoFX et ce matin, je suis accompagné de Kurt. Salut Kurt.
Bonjour BenoFX.
Et pour cette première interview du vendredi, nous accueillons trois personnes, Chloé, Claire et Michel du réseau Envie en Jeu. Bonjour à vous.
Bonjour.
Salut. Bonjour.
Avant de commencer, on va commencer par notre traditionnel fil rouge en vous posant quelques questions pour essayer de mieux vous connaître ludiquement.
Alors, la première question, si vous étiez une mécanique de jeu.
Moi, je serais un jeu à communication limitée.
Ok. Donc, c'était Chloé.
Moi, je pense peut-être un jeu de deck building.
Ok.
Un jeu d'échange.
Un jeu d'échange. Très bien. Deuxième question, si vous étiez un thème de jeu, quelle thématique seriez-vous?
Alors, moi, j'aime bien les jeux abstraits, d'autant plus que je trouve que parmi les jeux coopératifs, il y en a trop peu.
Effectivement, c'est assez rare.
Un jeu d'histoire.
Très bien.
Moi, ce serait peut-être un jeu plus scientifique.
Ok.
Si vous étiez un élément de jeu.
Un dé à 20 faces.
Donc un dé 20 pour
un
Michel.
Un dé 20, voire un dé 100, mais ce serait un peu indécent.
Moi, j'aime beaucoup le système de la boule aimantée qu'on trouve dans les jeux dodo de chez Loki. Je trouve ça très malin.
Et toi, Claire, du coup?
Moi, j'aime bien une tuile.
Une tuile.
Qui forme le plateau en coopérant avec les autres.
Et maintenant, la question la plus compliquée, si vous étiez un jeu, vous seriez quel jeu?
Anabi.
Anabi, ok. C'était direct pour Chloé.
Alors, pour compenser le go... Plutôt par rapport au dé. Donc, le go, il n'y aura pas de dé. Et ça va compenser. Et il y a une vie entière derrière.
C'est vrai.
Moi, je pense que je serais Kites.
Kites. Ah oui, effectivement.
Avec des coups speed et des temporalités pas forcément identiques.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On peut passer à l'interview, du coup. Donc, Claire, toi, tu es spécialiste du fonctionnement du cerveau et des troubles cognitifs. Chloé, toi, tu es formatrice sur les préventions des violences et la pratique coopérative. Et toi, Michel, tu es responsable du diplôme en sciences techniques du jeu à la Haute École Bruxelles-Brabant et vous préparez un livre avec Chloé, c'est ça?
Exactement, oui.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu chacun votre tour? Quel est votre parcours un petit peu ludique et votre rapport un petit peu au jeu de manière générale avant de parler un petit peu de ce que vous faites chez Envie en Jeu?
Moi, je peux dire que j'ai découvert les jeux coopératifs à la fin des années 90, plutôt dans des milieux militants.
Ouais.
En l'occurrence, la lutte contre la poubelle nucléaire à Bure. Et ça m'a particulièrement intéressé parce que du coup, ça m'a permis de transposer en fait ce que j'avais appris en termes d'organisation de groupe sur le plan politique, de passer de l'action directe non violente politique à l'action directe non violente éducative.
Et donc, un peu moins violente du coup quand même.
Et donc via le jeu. Bah, en tout cas, non, plutôt dans le but d'essayer de construire quelque chose, même si les temps sont difficiles, plutôt que de simplement s'opposer à ce qui est prévu pour nous.
Très bien. Donc c'était Chloé, merci.
Moi je suis infirmière de formation,
okay.
Même si j'ai toujours aimé jouer. Et j'ai découvert Envie en Jeu il y a 5-6 ans. J'ai découvert que j'avais un TDAH aussi. Et ça m'a donné envie de me former vraiment à ça et de faire un écrit avec Chloé sur l'intérêt du jeu coopératif dans l'accompagnement des personnes qui ont un TDAH. Et ensuite, avec l'envie de l'ouvrir sur l'inclusion grâce au jeu coopératif.
Okay.
Pour les 2-3 qui ne sauraient pas, tu peux nous dire ce qu'est un TDAH?
Pardon, oui. C'est le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité.
Merci.
À la base, je suis formateur d'enseignants. Et donc, effectivement, j'ai fait le pont entre ma passion personnelle et le métier en mettant la ludopédagogie au service de la formation des enseignants et en créant cette formation en sciences et techniques du jeu. Maintenant, c'est vrai que le jeu coopératif est plus particulièrement un intérêt pour moi et j'essaie de réfléchir à la structure des jeux, quelle qu'elle soit, mais donc pas développer que les jeux compétitifs qui restent omniprésents aujourd'hui.
Très bien. Alors, si vous êtes aujourd'hui à notre micro, c'est dans le cadre de Envie en Jeu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Envie en Jeu, concrètement, c'est quoi?
Oui, c'est une asso qui a été fondée en 2009 en Aveyron. Depuis, on a 3 assos différentes, une en Savoie, une en Bouches-du-Rhône, une en Aveyron. Et on partage des pratiques, des jeux, un site internet, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On organise des séjours vacances, qui sont du coup des immersions dans la coopération, qui durent une semaine à 10 jours. Du coup, on joue coopératif, mais on régule aussi nos conflits de manière coopérative. On essaye dans des postures d'autorité coopérative, etc., etc. Donc, avec un gros travail sur la posture, le savoir-être et les limites de la coopération, jusqu'où on peut aller, etc. On fait de l'animation, parfois événementielle ou ponctuelle, et parfois aussi des accompagnements sur des thématiques, harcèlement, discrimination, etc. Et également de la formation professionnelle, avec toujours une porte d'entrée ludique, même si cette porte d'entrée ludique, elle peut prendre la forme de jeux de société, mais elle peut prendre aussi la forme de jeux physiques, avec très peu de matériel, voire de jeux scéniques type théâtre forum. Et éventuellement, évidemment, on débriefe beaucoup.
Pour moi, Envie en jeu, c'est une rencontre qui date de 2015. À l'époque, j'étais membre du jury Asdor, et donc sur le magnifique stand que Chloé avait déjà monté à l'époque, il y avait une expo, il y avait des choses vraiment très très riches autour des jeux coopératifs, et on est rentré dans une discussion qui est devenue un peu interminable, et on s'est dit ben il faut faire quelque chose, et donc le projet d'écrire un livre sur les jeux coopératifs est né à cette occasion. Donc 2015, là, ça fait la décennie est passée.
C'est ça.
Donc il est temps. Les choses se sont mises progressivement et voilà, on s'est mis à travailler sur le projet et il aboutit progressivement maintenant.
Oui, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que le lien entre une association qui est plutôt dans le sud de la France et la Belgique. On pourrait dire que les rencontres se sont faites au Fige, du coup.
Ah, c'est le Fige, oui, oui. C'est le Fige qui nous a figé.
Tout à fait. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit avant, mais vous nous avez expliqué un peu qu'est-ce qui vous a amené à croiser éducation, finalement, relationnelle et jeu. Mais du coup, est-ce que le jeu est arrivé avant et ça vous a emmené vers l'éducation relationnelle ou c'est plutôt l'inverse, du coup, c'est plutôt cette volonté de coopération, d'éducation qui vous a amené au jeu? Ou c'est un peu croisé.
Ben, je pense qu'on a des parcours différents là-dessus. Moi, effectivement, j'étais très très curieuse en fait d'endroits où on pouvait questionner nos relations, la manière dont on fonctionne, etc. Notamment parce que je n'ai pas grandi en France et que je n'ai pas l'air étrangère, mais il y a plein de codes sociaux qui m'échappaient et je peinais à me faire expliquer. Donc c'est aussi pour ça que je parlais d'action directe non violente avant, parce que en fait c'est des endroits où je me suis retrouvée entre guillemets pour la cause, mais aussi très bien trouvée dans les pratiques où on essaye de décider à 200, on prend compte des limites de chacun, etc. Et du coup là ça devenait hyper clair pour moi, et effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans le jeu, quoi. Le jeu nous dicte en fait des conventions de parole, d'échange, de déplacement, etc. Et du coup nous offre un cadre relationnel hyper clair. Et du coup, ensuite, on peut comparer à ce qu'on vit dans le jeu par rapport à la vraie vie, etc. Mais effectivement, le jeu, c'est mon média préféré, mais c'est un média pour questionner nos relations.
Je dirais que pour moi, c'est l'inverse, dans la mesure où je suis passionné de jeu depuis tout petit. Bon, ok, on est tous tombés dedans quand on était petit, mais j'en suis jamais sorti. J'ai toujours joué particulièrement aux jeux de société d'une manière générale. Et donc, forcément, le plaisir de jeu appelle une variété, une diversité. Et après avoir été jusqu'au bout des jeux compétitifs, il y avait un championnat de Belgique multijeu en Belgique. Je faisais toutes les possibilités de tournois et autres jusque vers 2000. Et voilà, là, il y a eu un haut-le-cœur et une forme de réflexion pour aller vers autre chose. Et donc là, j'ai découvert des jeux de société différents. Et je me suis intéressé évidemment au message qui était porté par ces jeux-là. Et aussi sur le fait qu'on pouvait faire des jeux vraiment marrants, ludiques et pour le plaisir d'être joué, tout en ayant un message derrière. Et la structure n'est jamais innocente lorsqu'on joue. Donc là, vraiment, le pont s'est fait naturellement, avec mon métier en plus de formateur, évidemment, dans le domaine de l'éducation.
Ben moi, comme mes amis, je suis passionnée de jeux depuis toujours. Après, je pense que l'aspect coopération relationnelle, est venu suite à mon expérience professionnelle
d'infirmière,
de soignante en général, en particulier en psychiatrie, où j'étais un peu frustrée de la prise en charge parfois uniquement médicamenteuse avec envie de faire mieux. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré l'association Envie en Jeu. J'ai découvert vraiment le jeu coopératif et tout ce qu'il y avait de possible derrière. Et c'est là, ça qui m'a donné envie de me spécialiser en fait dans cet accompagnement.
Très bien.
On dit toujours jeu de société avec emphase sur société. Et pourtant,
hier soir, tous les As d'Or sont des jeux de duel agressif. C'est la première fois depuis 10 ans, je crois, qu'il n'y a pas un jeu coop qui remporte l'As d'Or dans la sélection. Et effectivement, je me suis demandé dans quelle mesure c'était en écho avec l'air du temps. Après, c'est une réflexion, c'est une réaction à chaud. Hein. Je dis pas que c'est...
3 lauréats sur 4 sont des jeux à deux.
Oui.
Donc, à deux, on fait pas société, mais c'est vrai que c'est une nouveauté par rapport aux lauréats qui est pas inintéressante, mais c'est à réfléchir.
Effectivement, ouais, on a des jeux à deux. Alors, ce qui était des jeux qui n'étaient pas du tout primés, effectivement, dans les années précédentes, il y avait pas trop de jeux à deux qui étaient primés. Ça, c'est un peu quand même la nouveauté, c'est qu'il y a des jeux à deux primés, mais effectivement, cette année, il y a pas de coopératif par rapport aux jeux précédents. Alors, quand je dis ces dernières années, c'est
oui, parce que dans les années 90, c'était pas le cas.
C'était des jeux abstraits.
Il y avait des as d'or abstraits et autres.
Tout à fait, ouais.
Les pions d'or et autres. Donc, oui.
Ouais, je suis d'accord.
Il y avait, mais depuis les années 2000, effectivement, c'est rarissime. Mais bon, c'est novateur, donc ça peut être intéressant, mais ça ne fait pas vraiment société.
Tout à fait. Et comment on définit un jeu coopératif, justement ? C'est quoi les critères d'un jeu coopératif ?
C'est un jeu qu'on gagne ou qu'on perd tous ensemble. Maintenant, il y a différents type de jeu coopératif, et aujourd'hui je pense que le vocable coop revêt un chapeau assez un peu trop large en fait, et donc voilà, on met là-dedans toute une série de choses, et donc dès que tout le monde fait partie de la même équipe, on peut parler de jeu coopératif, en tout cas qu'on gagne ou qu'on perd tous ensemble.
On constate quand même ces dernières années, on constate quand même un certain essor quand même de la part des jeux coopératifs. Moi, j'ai tourné dans le salon, j'ai fait quelques jeux hier et il y avait une bonne partie qui était quand même des jeux coopératifs. Est-ce que ça reflète quelque chose de notre époque, ou est-ce que c'est un peu en décalage justement avec ce qu'on peut vivre au quotidien?
Il y a une recherche d'autres plaisirs ludiques, je pense, et donc de diversité de la part des joueurs d'une manière générale. Et donc, les éditeurs ont fait une place aux jeux coopératifs parce qu'il y avait une demande de diversité et de sensations différentes. Donc, ça explique l'élargissement, mais ça reste quand même marginal. Hein. On est à 12% des jeux qui sortent. Donc voilà, ça fait quand même 80%, 88% des jeux qui ne le sont pas.
Et c'est vrai qu'en fait, avec cette grande diffusion de jeux, y compris jeux coopératifs, on s'éloigne aussi un peu du jeu coopératif originel qui était très intentionnel, qui avait une visée éducative, qui du coup avait tendance à exclure toute forme de violence, voire tout échange d'argent, enfin... Donc il y a eu un mélange en fait d'univers, notamment d'univers du wargame avec le jeu coopératif, d'univers fantastique qui du coup intègre des éléments de violence dedans. Nous on fait le choix de jouer à tous les jeux parce qu'en fait on se dit que finalement peu importe le prétexte, du moment qu'on se retrouve solidaire dans le jeu, c'est ça qui nous importe. Mais voilà, on pourrait avoir fait d'autres choix.
Alors, vous proposez d'explorer des compétences sociales via le jeu. Écoute, affirmation, coopération. Est-ce que selon vous, un jeu coopératif récréatif peut aussi éduquer à des compétences, ou il faut des dispositifs spécialement pensés pour ça?
Alors, à mon sens, et je pense qu'on est assez raccord là-dessus, n'importe quel jeu, en particulier coopératif effectivement, permet de développer ses compétences. Ce qui va permettre d'ancrer ses compétences, après c'est ce qu'on appelle la métacognition, mais ce qui permet d'ancrer, c'est les phases de débriefing. C'est-à-dire, on joue à un jeu. Je parlais de kites, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup pour travailler sur le type de compétences. On fait une partie de kites, point. Et après, on discute comment on s'est senti dans le jeu, comment on aurait pu faire mieux. Et c'est là qu'on va pouvoir développer les compétences de relations interpersonnelles, de gestion de la frustration, des émotions et bien d'autres grâce au débriefing. Et c'est l'alternance entre jeu, coopératif et débriefing qui permet de développer ces compétences, même si ce ne sont pas des jeux spécifiques.
Mais alors c'est vrai que tu me fais remarquer un truc que j'avais pas conscientisé, c'est que on a beaucoup plus naturellement tendance à débriefer un jeu coop. Quand on fait un jeu coop, on se refait la partie beaucoup plus que sur un jeu compétitif. Et c'est vrai que je l'avais pas forcément remarqué de manière très consciente.
Les joueurs ont toujours besoin de s'exprimer après avoir joué un jeu. Le vécu est fort, mais le débrief alors il est spontané. Mais lorsqu'il y a une personne qui met en jeu, le débrief est un petit peu plus structuré, c'est-à-dire que on organise, on pose des questions, on relance, et les gens mettent des mots sur les émotions, et ça fixe un petit peu plus les contenus, on va dire. Et c'est là que l'intention est plus pédagogique, mais c'est pas indispensable du moment que les personnes peuvent échanger sur le jeu après leur expérience. La chose devient intéressante. Maintenant. Le développement des jeux coopératifs, il est plus large que ça, mais je reviendrai après.
Et effectivement, le jeu coopératif, étant donné qu'il nous place en situation de responsabilité partagée sur la victoire ou l'échec, eh ben, il donne d'autant plus envie de débriefer. Et d'ailleurs, il y a des jeux à communication limitée qui contraignent, en fait, qui nous empêchent d'être trop transparents sur nos stratégies, de tout dire, etc. Ce qui est rarement le cas dans un jeu compétitif, en fait.
Oui.
Dans le cadre de l'association des ludothèques francophones belges, dont je m'occupe également, nous avons développé un jeu pour analyser les jeux et pour en créer, qui s'appelle le Ludovortex. Il y a dans le Ludovortex 30 compétences transversales qui sont répertoriées pour analyser les jeux. Elles viennent des compétences psychosociales de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Et en fait, on remarque, sur une bonne centaine d'expériences de parties, que de 10 à 20 compétences sur 30 sont identifiées dans tous les jeux, pas que les jeux coopératifs, d'une manière générale. Donc effectivement, ça représente à peu près la moitié des compétences possibles qu'on va exercer lorsqu'on joue naturellement dans les jeux. Voilà. Le débrief, effectivement, comme le dit Claire, permet de faire ressortir ces éléments de manière un peu plus consciente. Sinon, c'est simplement éducatif, mais pas pédagogique. C'est ça la différence.
Et j'étais en train de me dire aussi que j'étais en train de me demander si tous les jeux coopératifs se valent, puisque on a aussi des jeux coopératifs avec ce qu'on appelle des effets leaders qui sont assez forts. Mais je me dis que dans ce cas-là, le débriefing est d'autant plus intéressant de se dire, ah ben en fait, moi j'ai pas vraiment pu m'exprimer, je me suis fait diriger toute la partie parce que t'avais l'air de savoir ce que tu faisais, etc. Parce qu'il y a quand même des différences au sein des jeux coopératifs sur justement le niveau de coopération ou le fameux effet leader.
Tout à fait. Et c'est là aussi avec Michel, quand il disait jeu coopératif, finalement c'est un chapeau qui est extrêmement vaste.
Oui.
Et du coup, on s'attache à spécifier en fait trois grandes catégories de jeux coopératifs. Des jeux qu'on appelle associatifs, qu'on va jouer vraiment pour le plaisir de l'interaction. Où il y aura pas de points, ou alors il y en aura, mais on va à un moment oublier de les compter. Des jeux coopératifs sans rôle, donc dans lequel le jeu place les joueurs dans une situation a priori d'égalité, et donc dans lesquels on va mobiliser nos compétences personnelles. Et puis des jeux, et donc dans ces jeux-là, le risque d'un effet leader est d'autant plus grand. Après, est-ce que c'est effectivement un problème du jeu ou un problème des joueurs, et comment est-ce qu'on apprend à réguler ça, c'est effectivement une question de société pour le coup.
Ouais.
Et puis des jeux qui vont nous attribuer des rôles spécifiques ou des informations individuelles et qui vont du coup réguler, qui vont nous amener à nous spécialiser en fait en fonction du personnage ou des infos qu'on a reçues, et qui vont un petit peu organiser la coopération. Alors ça peut être à la fois des jeux beaucoup plus complexes, et à la fois on peut se retrouver un peu sous tutelle en ce qui concerne la régulation des relations dans l'équipe, quoi.
Dans ce cas-là, les joueurs sont vraiment en interdépendance, effectivement, puisque chacun a son rôle ou des informations spécifiques qu'il va partager dans le jeu. Mais on n'est pas à l'abri alors d'un effet pervers qui serait plutôt l'effet bouc émissaire, c'est-à-dire que on a perdu, mais on n'a pas tous perdu puisqu'il y en a un qui a pas tout à fait bien joué. Ouais. Donc, on passe d'un souci effet leader à un souci plutôt effet bouc émissaire. Mais là, c'est effectivement le partage et l'accompagnement qui peut relativiser ce souci.
Tout à fait. Et j'ai envie de préciser, c'est entre autres pour ça que le jeu coopératif est particulièrement intéressant sur les apprentissages avec le débriefing, puisque au-delà de la gestion de la frustration gagnant-perdant, il y a vraiment cette interaction et cette façon de faire ensemble, de discuter de comment on s'est senti, de comment on peut mieux faire, de comment accompagner une personne qui a une difficulté sur un point, mais comment potentialiser ses qualités à notre endroit et comment en fait arriver en fonction de chacune des individualités qui est autour de la table, d'arriver à vraiment trouver notre place, comme on peut chercher notre place quelque part dans la société.
Et même d'un point de vue ludique, c'est clair que les joueurs qui veulent arriver à un résultat, qui ont un défi devant eux, dans un jeu coopératif, ils vont partager les stratégies, ils vont vraiment échanger. Ça va être un brain trust permanent. Alors que bon, dans un jeu compétitif, on va soigneusement garder les choses pour soi.
C'est plus une introspection.
Mais oui, forcément. Donc, forcément, le jeu coopératif, même d'un point de vue ludique, va permettre des échanges beaucoup plus riches.
Et justement, ça fait une bonne transition pour la prochaine question. Qu'est-ce que le jeu spécifiquement ouvre comme possibilité pédagogique et que n'ouvre pas les autres formats, les autres médias en fait? Qu'est-ce que le jeu permet par rapport à d'autres médias?
Alors le jeu fondamentalement permet d'oser l'expérience parce que c'est un état modifié de conscience. Donc, on n'est pas dans la réalité, on est dans une parenthèse. Donc, on a vraiment le sentiment que on va pas être jugé. On a le droit à l'erreur quand on joue.
La bulle magique.
C'est ça, exactement. Et cet état-là n'a pas assez été étudié. C'est vrai qu'on sait que le rêve provoque des choses en état modifié de conscience qui sont étonnants, l'hypnose aussi, mais l'état de jeu permet des choses manifestement. Donc on est dans un état où on s'autorise de prendre des risques finalement. Et donc là c'est tout à fait spécifique au jeu effectivement. Donc on a une forme de, on est quelque part désinhibé parce que on ose. Et donc quand on est fragilisé ou qu'on a des soucis, on peut quand même essayer, on peut quand même exister. Et donc ça permet des ouvertures assez grandes. Certains ont peur de ça, d'ailleurs, ils veulent pas jouer parce que ils vont se révéler.
Oui.
Et cette révélation et le fait d'en discuter va former un moment fort qui est particulièrement présent dans les jeux d'une manière générale et dans les jeux coopératifs en particulier.
Puis oui, ça permet de vivre et de simuler des situations qu'on rencontrerait pas aussi dans la vie de tous les jours ou voilà.
Par ailleurs.
Et j'ai envie de rajouter, parce que c'est vrai que ça parle de l'aspect mécanique qui permet d'expérimenter. C'est une énorme facette du jeu. Et je pense que dans le côté éducatif, on oublie le côté ludique. Et du coup, je parle un peu côté neurosciences. L'aspect ludique permet d'ancrer les apprentissages d'une façon bien plus efficace, et ne serait-ce que par l'intérêt et la concentration des personnes qui participent au jeu. Et donc, de ce fait, d'être beaucoup plus efficace entre l'intérêt et l'attention par l'aspect ludique et, comme le disait Michel, les mécaniques qui permettent de prendre des risques sans conséquence sur la vie réelle, les deux ensemble font un excellent moyen d'apprentissage.
Bah justement, tu as déjà à moitié répondu à ma prochaine question. Je me permets de la poser, ça vous permettra de rebondir. Vous parlez souvent d'inclusion et de neurodiversité dans vos ateliers. Comment l'approche ludique aide-t-elle à créer un espace plus inclusif qu'un format pédagogique classique?
Moi, j'avais envie de compléter sur la précédente question. Donc effectivement, le côté détente et joie, c'est des conditions essentielles en fait pour apprendre. Et souvent, on interroge les relations quand elles sont crispées, quand elles sont tendues, quand on n'arrive plus à communiquer. Donc on les interroge dans un espace où on n'est plus en mesure d'apprendre. Le jeu fait exactement l'inverse. Et moi, j'aime bien cette phrase aussi qui dit quand on joue, en fait, on peut pas tricher en fait. C'est-à-dire que quand on est dans cet état un peu lâché, un peu enfantin, etc., on est vraiment soi-même et on peut en fait s'observer dans nos réflexes, dans des formes de spontanéité. Et moi, j'ai l'impression que c'est à l'endroit où ma spontanéité va changer que j'aurai vraiment acquis une compétence, quoi. Tant que je suis dans une forme de contrôle et de maîtrise à réfléchir à ce que je vais dire ou comment je vais interagir avec quelqu'un, bah, je suis encore beaucoup dans le tâtonnement, quoi. Et donc, le jeu, il permet de faire et de refaire jusqu'à ce que ça devienne simple et fluide, quoi.
On se révèle tel qu'on est à soi-même. Et c'est vrai qu'il y a une authenticité du joueur dans les actions qu'il pose. Maintenant, au niveau des mécanismes, c'est très intéressant. Je rebondis sur ce que disait Claire par rapport à ça, c'est que certains mécanismes vont pouvoir être analysés. Encore faut-il que le metteur en jeu s'intéresse au jeu en fonction, justement, des mécanismes qu'il y a dedans et pas simplement prendre n'importe quel jeu de société et le transposer pour en changeant la thématique, par exemple. Ça ne suffit pas. Il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière, au niveau des mécas, au niveau du moteur du jeu, pour identifier la valeur ludique de l'expérience et pouvoir rebondir alors en un transfert de réflexion. Et ça, c'est, voilà, le game design pédagogique commence à progresser dans ce domaine-là, mais il n'y a pas encore énormément de jeux où la réflexion pédagogique se fait. Donc, c'est plutôt une relecture pédagogique des jeux existants qui est riche, parce que là, on peut exploiter tous les jeux qui existent en étant assez pointu sur ce qu'ils vont pouvoir révéler.
C'est une bonne question. Et justement, comment on utilise ça pour aborder, comme le disait aussi Kurt, pour créer des espaces inclusifs, comment on fait pour aborder justement des sujets sensibles? Vous abordez des sujets de discrimination, de violence, etc. Comment on fait pour aborder ça de manière sereine et puis sans peut-être aussi basculer dans le moralisateur? Enfin, faut trouver l'équilibre pour faire passer les messages sans braquer non plus les personnes. Ou comment on utilise ces mécaniques ludiques pour faire ça?
J'ai l'impression qu'on peut répondre sous deux axes. On peut, enfin, moi je vais prendre l'axe un peu compétences psychosociales, on va dire, et Claire, j'imagine, l'axe fonction exécutive. Déjà, pour nous, accompagner un groupe vers la coopération, c'est vraiment un chemin. Donc, un jeu de société peut nous offrir un raccourci, mais on l'a dit précédemment, il suffit pas d'avoir un jeu coopératif entre les mains pour coopérer. Et donc, nous, on a une petite méthode, des petits repères, en fait, quand on arrive dans un groupe, et bien déjà, on permet que chacun puisse parler de soi, et que, si possible, cette mise en jeu ou cette parole, elle révèle à chacun des choses de lui-même. Ça peut être comment je me sens ce matin, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus exposant. Qu'elles permettent aussi à chacun de prendre un peu conscience des autres. Ça peut être de leur état du moment, de leurs compétences, peu importe. Enfin, on peut dérouler la notion sous différentes thématiques. Ensuite, on va faire des jeux dans lesquels, on appelle des jeux de confiance en fait, mais dans lesquels on va pas simplement s'auto-réguler ou soutenir l'autre à se réguler, mais on va commencer à réguler la relation. À dire qu'est-ce qui nous convient, comment on aimerait fonctionner, là où on se sent en sécurité, pas en sécurité, etc. Ce qui permet, une fois que ces champs sont ouverts, même si c'est un travail infini, ensuite d'introduire un objectif et de dire, alors, comment pouvons-nous atteindre un objectif en commun tout en prenant soin de nos interactions, tout en prenant soin de chacun. Et puis, éventuellement, en dernière étape, poser des questions de société et dire à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la vie réelle, etc. Et commencer, du coup, à faire le lien entre la manière dont on s'organise dans le jeu et la manière dont on s'organise ou dont on aimerait s'organiser en société. Et donc, effectivement, c'est tout un accompagnement. Alors, nous, on est beaucoup sur des bases de non-directivité, de dire, en fait, nous, on est surtout là pour poser des questions. Et puis, chaque personne et chaque groupe va trouver ses réponses. Et puis, on est là aussi pour être garant du fait que chacun puisse exister dans sa singularité et que ce soit vraiment la base de la rencontre, de l'interaction, etc., plutôt que d'aller vers des comportements normatifs, quoi. Donc, on ouvre vraiment toute cette question des relations. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'intelligence collective, où on va être beaucoup plus sur la production, simplifier les interactions pour être focus sur un sujet. Bon, nous, on fait vraiment tout l'inverse. On se réclame davantage de l'éducation populaire, d'ailleurs. Et ensuite, il y a plein de manières aussi de faire. Et je t'invite à compléter, Claire.
Oui, merci. Je vais reprendre la question qui était aussi comment inclure la neurodiversité, entre autres, Parce que alors, pour ma part, c'est ma porte d'entrée. Alors, je me permets de définir neurodiversité qui n'est pas neuroatypicité. Neurodiversité, c'est l'ensemble des personnes. L'ensemble des personnes, c'est un spectre avec des personnes qui sont dans une moyenne, des personnes qui sont dans une norme établie et du coup qui ont plus de facilité, par exemple, dans le système scolaire, dans le fonctionnement en fait scolaire. Et puis, il y a des personnes qui sont en dehors de ces normes-là. Alors, on dit typique et atypique, je trouve ça un peu clivant. Il y a des personnes pour qui c'est particulièrement handicapant, c'est là qu'on parle de troubles. Mais en fait, une personne qui est pile poil au milieu de la moyenne, de la norme, et une personne qui est un extrême, il y a une infinité de possibilités. Quand on parle d'inclure la neurodiversité par la coopération, par le jeu coopératif, c'est permettre à chaque personne, qu'elle soit dans une norme sociale ou établie quelconque, ou dans un extrême presque handicapant, d'arriver à trouver sa place. Tout ça, parce que ensemble, en fonction des objectifs des jeux, et parce qu'il n'y a pas de conséquences sur la vie réelle, on va oser tester, laisser la place à chacune des personnes. Alors, au début, faut peut-être plus accompagner, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en général, en dehors des jeux. Mais ça permet de laisser la place à chacune des personnes, à chacune des individualités et à chacune des atypicités, en fait, individuelles, de s'exprimer, de se compléter et du coup, par là, de se comprendre et en se comprenant, du coup, de mieux fonctionner ensemble et d'où l'inclusion. Et je me permets de compléter un petit peu. Au niveau des, ça marche bien au niveau des fonctions exécutives aussi. Sur un jeu qui est compétitif, alors sur un spectre de neurodiversité, sur des personnes qui peuvent avoir des troubles, il y a souvent une dysrégulation des émotions, difficultés de gestion et de frustration. Je ne dis pas que le jeu compétitif, est mal. Simplement, il y a un cap à passer de la frustration de gagner-perdre où il y a déjà un énorme travail. Le jeu coopératif va permettre d'aller travailler du coup ces autres fonctions exécutives que sont la gestion des émotions de façon globale, l'interaction, la concentration, la flexibilité mentale, comment on change nos plans en fonction de ce que va jouer l'autre. Et du coup, donc d'un côté, ça permet l'inclusion et de l'autre, par le travail des fonctions exécutives, ça permet aussi à une personne qui est dans situation de trouble d'avoir des outils pour mieux se sentir en société. Et pour finir, je dirais que ça, ce prisme-là de la neurodiversité, ça s'illustre très bien, mais que ce même prisme, on peut l'utiliser pour toute forme d'inclusion et finalement pour lutter contre toute forme de discrimination.
Très bien.
On va approcher de la fin de l'interview, donc on va vous demander qu'est-ce que vous espérez de cette semaine à Cannes ?
Parce qu'on l'a pas dit, mais vous animez un espace aussi à Cannes. Voilà, donc j'imagine que c'est aussi pour apporter un peu cette parole-là auprès du public et de sensibiliser un peu les gens. Est-ce que vous avez aussi la volonté de peut-être porter un message au niveau des auteurs de jeux pour qu'on va dire que les jeux grand public soient un peu plus emprunts de toutes ces notions.
Oui, ben je ne peux que rendre hommage à la démarche d'un auteur comme Henri Kermarec, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Ce n'est qu'un jeu », dans lequel il parle des usages politiques des jeux. Et donc, en tant qu'auteur de jeu, je trouve que ce positionnement est vraiment très, très intéressant, parce que donc, il a conscience qu'il ne crée pas un jeu uniquement pour vendre des boîtes, quoi. Et que la pratique du jeu qui est derrière a effectivement des conséquences. Le jeu est peut-être amoral, c'est-à-dire qu'il n'est pas immoral ou moral, il y a rien derrière le jeu, l'attitude ludique. Par contre, les jeux à règles sont des supports de culture, d'enculturation d'une manière générale, et donc un jeu n'est jamais innocent de ce point de vue-là. Et donc, pouvoir avoir une analyse derrière, une conscience, voire créer un jeu avec une volonté de conscientisation, mais en le faisant avec la qualité et la réflexion et la culture ludique d'un vrai auteur de jeu pour le plaisir d'être joué. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est, pour moi, la quintessence de ce qu'on doit faire aujourd'hui.
Et en fait, ça chemine côté Serious Games ou jeu à message. Il y a effectivement une volonté d'inclure en fait toutes les innovations ludiques qu'on a vues ces 15 dernières années, on va dire, et du coup progressivement peut-être sortir de la dichotomie serious games ou jeux sans message spécifique. Après, la question, c'est vraiment de mon point de vue, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à intégrer des mécanismes dans une thématique ? Parce que il y a des mécanismes qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on essaye de faire porter. Et ça rejoint la question des apprentissages dont vous parliez tout à l'heure, de dire en fait en quoi le jeu peut non seulement porter des messages, mais aussi nous inviter en fait à développer des comportements prosociaux, que sais-je, en tout cas directement liés à la thématique du jeu. Et ça, on le voit que même dans la fiction, même dans le jeu purement divertissant, c'est pas toujours une alliance parfaite.
Notre rapport par rapport au livre qui devrait sortir dans les quelques mois à venir, jouer et coopérer avec ou sans rôle, c'est qu'il faut faire attention à la thématique, mais pas que à la thématique, on l'a bien compris. Il y a les mécanismes aussi, mais au-dessus des mécanismes, on a la structure du jeu, la structure relationnelle qui, elle, est vraiment essentielle. Et là, parfois, les auteurs de jeux n'y font
pas
suffisamment attention. Ou alors, ils considèrent que caractère coopératif est un mécanisme parmi d'autres. Non, ça vient au-dessus. Les équipes cachées, le tous contre un, toutes ces relations-là, ce sont des structures qui sont spécifiques et donc qui viennent chapeauter la création du jeu.
Et toi, qu'est-ce que tu attends pour Cannes, Claire ?
C'est une vaste question. Moi, Cannes, j'attends de me faire plaisir, déjà.
C'est important aussi.
Très important.
De faire des rencontres. Après, le stand nous permet... À l'origine, tu me corrigeras, Chloé, et peut-être tu développeras. À l'origine, vous étiez les premiers à apporter des jeux coopératifs sur Cannes. Donc le message est de porter le jeu coopératif, quel qu'il soit, même si en ce moment il y en a partout ailleurs, c'est effectivement, il y a cette envie de porter la coopération.
Puis on a vu les petites maisons d'édition, les petits fabricants, les assos... disparaître en fait progressivement de ce festival. On a vu aussi Asmodée prendre de plus en plus de place.
Oui, on parlait dans notre débrief, on parlait du jeu de rôle aussi qui disparaît progressivement. Enfin, de moins en moins de jeux de rôle présents sur le salon.
Voilà, donc porter le jeu, et que ce soit avec Envie en jeu, que ce soit avec l'ALF, vraiment de manière sociale, éducative, et faire un pas de côté avec une logique marchande, ça me semble intéressant où que ce soit, peut-être.
Oui, je pense que c'est très important de laisser toujours une place aux petits. On parle des jeux de rôle justement, mais il y a vers 2011, lorsque les 12 singes réfléchissaient à faire des jeux, ils faisaient déjà beaucoup de jeux de rôle, mais ils ont créé un jeu qui s'appelait, enfin, ils ont édité un jeu qui s'appelait Anabi. C'est en prenant des risques, c'est forcément les petits qui vont prendre les risques parce qu'ils sont plus aventureux évidemment sur des choses et des projets originaux. Donc ce qui fait avancer les choses, c'est pas les grosses machines sans risque bien sûr. C'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que le FIJ est important, c'est au terme de réseautage et de rencontre de ces milieux. Donc il faut éviter de les cloisonner trop pour qu'on se rencontre encore. Et merci à vous pour cette rencontre justement, effectivement.
Avec plaisir, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, donner la parole à tout le monde.
Vraiment.
Oui. Bon, j'ai envie de rajouter effectivement dans mes envies et puis dans ce qu'on fait, dans notre espace. On a la chance d'avoir déjà rencontré ces dernières années un certain nombre d'auteurs, d'autrices de jeux coopératifs, en auto-édition pour certains, certaines. Et on a la chance de les avoir sur notre stand. Donc on essaie aussi de les porter, de les amener à Cannes, là où on n'aurait pas la possibilité, de les inviter sur un événement, présenter leur jeu sur 2 heures, comme on a pu le faire, enfin, comme on le fait en fait toutes les demi-journées, là, jusqu'à dimanche, au 33-01. Enfin, en tout cas sur notre stand.
Très bien. Ben, grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Maintenant,
on a un site de vente de jeux de société en ligne qui s'appelle jeuxcoopératifs.com.
Peut-être okay.
Très bien. On mettra nous le
jeu avec un X. Jeu avec un X. Jeux coopératifs au pluriel du coup.com.
Et on mettra nous le lien dans le billet.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très bientôt sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien!